apporte mes ailes, disent au revoir, puis je sors. Dans la rue, le vitelchel, au pare-brise de mon véhicule mort, sans le fromage de Marcel, ce Sardaigne homéopathe, sans ce goût qui ensorcelle et qui rappe notre histoire sur nos pattes. Java al forno, Java Moselle, Java formaggio dei Sardaigne, Java combat, Java festa, Amerlebach, Java mes mains. Java al forno, Java Moselle, Java formaggio dei Sardaigne, Java combat, Java festa, Amerlebach, Java mes mains.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste, diffusée sur Radio Libertaire. Notre émission sera consacrée aujourd'hui à la journaliste et documentariste Anne Poiré. Anne Poiré réalise depuis 15 ans des documentaires qui décryptent les zones grises des après-guerres. En 2007, elle a réalisé Muture, un crime contre l'humanitaire, film qui se passe au Sri Lanka et qui a été diffusé sur France 5. Ce film lui a également valu le prix Albert Londres. Puis elle a réalisé aussi d'autres documentaires sur les après-guerres, notamment Syrie, Mission Impossible, qui a été diffusé sur Arte. Puis un documentaire qui avait pour titre Soudan du Sud, Fabrique d'un État, diffusé aussi sur Arte. Un autre, Namibie, le génocide du Deuxième Reich, diffusé sur France 5. Puis Mon pays fabrique des armes, diffusé sur France 5. Un autre documentaire qui s'appelle Mossoul après la guerre, diffusé sur Arte, ainsi que Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre. Et enfin, Ukraine, chronique d'une guerre annoncée, qui a été diffusée en 2022 sur France 5. Anne Poiré est également l'auteur du livre Mon pays vend des armes, aux éditions Les Arènes. Son documentaire « Mon pays fabrique des armes », qui date de 2019, a été récemment rediffusé sur la chaîne parlementaire. Ce film est toujours d'actualité. En effet, nous apprenons le 14 juillet 2023 que le Premier ministre indien Narendra Modi, auquel Macron a déroulé le tapis rouge pour assister à la fête nationale française, est avant tout un bon acheteur d'armes. Il a confirmé d'ailleurs dès son arrivée en France l'achat de 26 avions de combat Rafale et de 3 sous-marins Scoper pour la somme de 8 milliards de dollars. Alors tant pis si Human Rights Watch déclare que depuis l'élection de Narendra Modi, l'Inde n'est plus une démocratie mais en réalité un pays autoritaire où de nombreux droits et libertés sont entravés. Le choix de Macron est d'autant plus cynique, selon Ingrid Terwan, journaliste et documentaire en sciences politiques, que le défilé du 14 juillet est l'occasion de présenter le catalogue de l'industrie militaire française à Narendra Modi. C'est d'ailleurs très rentable pour l'économie de la France, puisque la France est devenue le 3e plus gros exportateur d'armes au monde. Le documentaire d'Anne Poiré, journaliste et prix Albert Londres, « Mon pays fabrique des armes » et son livre « Mon pays vend des armes » est d'autant plus important pour les pacifistes. Dans son livre, Anne Poiré écrit dans le prologue « Plusieurs fois, lors de mes reportages en Libye, au Yémen, en Irak, des hommes et des femmes m'ont prise à partie et m'ont demandé « Ces armes qui nous déciment, pourquoi la France nous les a-t-elle vendues ? Pourquoi avoir armé Kadhafi, Saddam Hussein et l'Arabie Saoudite ?» Et nous pourrions d'ailleurs ajouter aujourd'hui aussi l'Égypte et l'Inde. En revoyant son documentaire « Mon pays fabrique des armes », on peut d'ailleurs en douter, car l'idée dominante de ce film est que les citoyens français ne savent rien et ne sauront rien de cette industrie de la mort. Les fabricants gardent toujours un secret défense absolu sur leur production. En 2019, Anne Poiré est interrogée sur Sud Radio. Nous l'écoutons.
18 mois d'enquête dans une situation assez inconfortable, si on peut parler, sur le sujet de l'armement en France qui est couvert par le secret défense, ce qui limite beaucoup, j'imagine, l'investigation et qui met fin à pas mal de discussions. Et je le disais, le sujet de l'exportation de l'arme qui sont fabriquées en France, très sensible, est tellement que même le champ lexical a changé. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'armement, en tout cas de fabrication ou de fabricant d'armes, mais d'une base industrielle et technologique de défense qui prouve que c'est un vrai problème. Mais le point de départ finalement de cette enquête, c'est la morale, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme.
C'est la morale et puis c'est le droit aussi, parce qu'on est signataire du traité pour le commerce des armes, qu'on a ratifié en 2014. On a signé une position commune en 2008 qui a un cadre en fait au vent de l'arme. Donc après, est-ce que c'est moral ou pas, ça c'est des questions qui se posent.
Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui sont venus, ou des enfants ou des civils qui sont venus vous en parler dans certains pays en disant, est-ce que vos armes, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes pays des droits de l'homme et que vos armes tuent?
Oui, voilà, c'est-à-dire que ce qui était très intéressant pour moi et qui est effectivement le point de départ de mon enquête, c'est que en Libye, en Irak, au Yémen, où j'ai pu me rendre avant la guerre, les gens vous renvoient cette image de vendeur d'armes, en fait, qu'on n'a pas en France, en fait. C'est ça un tabou, hein, c'est qu'on n'y pense pas. On a complètement évité cette idée. On se vit comme le pays des droits de l'homme, et il faudrait et de l'extérieur, les pays. En Égypte, c'est très très frappant. Les gens ont tout à fait conscience de ce qu'on leur vend, de ce qu'on vend à ce qu'on a vendu à Kadhafi, ce qu'on a vendu à Saddam Hussein, et les populations civiles vous interpellent sur ces questions quand vous allez là-bas.
Alors pour revenir, pour expliquer comment ça fonctionne le matériel de guerre, on peut exporter, mais il y a des conditions forcément à remplir, des conditions de licence.
Non, c'est un domaine qui est très très encadré en France. Oui. Hein, il est absolument interdit de vendre des armes à l'étranger pour un industriel, sauf à avoir une autorisation étatique, donc ça passe par une commission. Alors pour des armes, si ce sont des boulons à la Suède, ça posera pas de problème, ça passera par un système informatique qui sera contrôlé, mais qui sera sans problème. Et pour les cas qui sont plus contentieux, il y a chaque mois une réunion qui a lieu, qui s'appelle la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, la CIEM. C'est une commission interministérielle où plusieurs ministères débattent en fait de savoir si c'est approprié ou pas de vendre par exemple un missile à l'Arabie Saoudite ou ses canons. Alors, voilà. Le problème, c'est que toutes ces discussions qui sont parfois des débats très forts, hein, on me le dit, ça peut être très sportif, ces discussions sont classifiées, elles sont classifiées confidentielles défense, donc par nature on ne peut pas savoir comment l'État prend ses décisions.
Oui, parce que normalement il y a des classifications par pays et puis des classifications par armes du coup, et c'est comme ça que normalement ils devraient travailler.
Alors toutes les armes, qu'à partir du moment où c'est du matériel de guerre, c'est classifié comme ça, doit passer par cette commission, donc vous devez avoir cette licence. Donc l'État français contrôle toutes ces armes et toutes ces décisions, et les industriels s'abritent beaucoup derrière ça en disant c'est pas nous, c'est l'État français, nous on est responsable de rien. Alors ils sont quand même responsables de demander une licence, hein, ils pourraient s'abstenir, mais à partir du moment où la demande est faite, c'est la France qui prend cette décision.
Les armes sous le mandat de François Hollande avec Jean-Yves Le Drian à la Défense, c'est quand même la période durant laquelle on a vendu le plus d'armes à l'étranger.
Voilà, on a toujours été un pays
qu'on appelle l'équipe France.
L'équipe France, voilà. On a toujours exporté beaucoup d'armes. On n'a plus assez d'argent pour fabriquer et d'être complètement autonome dans notre armement sans l'exporter. C'est-à-dire que ça, il faut le rentabiliser. Et donc,
il faut éviter les trous de production, c'est sûr.
Une partie, voilà. Ouais. C'est comme ça que c'était qu'il l'explique. Et sous François Hollande, il y a une décision effectivement qui a été prise pour équilibrer la loi de programmation militaire. De fonder une partie de l'équilibre budgétaire sur les ventes d'armes, sur l'exportation, et notamment d'essayer de réussir ce pari de vendre le Rafale
C'est pour ça que ça a augmenté aussi un petit peu.
86 Rafales.
C'est pour ça, voilà.
S'il n'y avait pas eu cette vente, on n'aurait pas dit, oui, c'est sous François Hollande qu'on a vendu le plus d'armes, quoi.
Oui, mais c'est comme ça, et ça entraîne effectivement, c'est pas juste l'avion, c'est des missiles qui viennent avec, c'est des corvettes, il y a eu tout un ensemble de choses, notamment.
Et c'est l'industrie française derrière aussi.
C'est comme ça qu'ils le disent, oui. C'est l'industrie, ça entraîne effectivement des emplois indirects. Voilà, simplement, c'est vrai que ces chiffres sont compliqués à vérifier. Donc, on ne sait pas exactement combien d'emplois sont concernés. La ministre récemment parlait de 400 000 emplois indirects. Bon, voilà, il faut la croire sur
400 000
parole. C'est le dernier chiffre qui est sorti en commission. Indirect. 60 000 qui seraient concernés directement par l'exportation. Donc voilà, il y a aussi un contexte de réarmement mondial. Il y a aussi le retrait des Américains. Par exemple, en Égypte, les Américains ont freiné sur les livraisons qu'ils faisaient à l'Égypte suite au massacre d'août 2013. Il y a quand même pratiquement, les organisations de droits de l'homme disent qu'il y a pratiquement un millier de civils qui ont été tués au Caire. À la suite de ça, les Américains ont quand même freiné sur les livraisons d'armes. Et il y a un espace qui s'est ouvert pour la France, sur lequel effectivement l'équipe France de Jean-Yves Le Drian est rentrée. Et à la suite d'un certain nombre de ventes, véhicules blindés qui se sont faits pour le coup dans le plus grand secret. Un espèce de partenariat s'est fait avec le maréchal Sissi et ses équipes. On a vendu des corvettes, puis le Rafale, et c'est devenu l'Égypte notre premier client en termes de livraison d'armes ces deux dernières années. Depuis l'été 2013, les ONG de défense des droits de l'homme ont documenté plus de 1200 cas de disparition forcée.
C'est une photo de mon père. Il manifestait ce jour-là devant l'ambassade de France au Caire parce que quelqu'un d'important venait de Paris rencontrer le maréchal Sissi. Il voulait demander à cette personnalité française de plaider la cause de leurs enfants disparus auprès de Sissi.
Ibrahim Metwali a depuis été arrêté. Il avait pris la tête du mouvement des familles de disparus parce que son fils aîné a été englouti dans les prisons du régime après son arrestation en 2013. Avec sa femme, ils l'ont cherché partout, multiplié les recours en justice, sans jamais retrouver sa trace.
Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'on me prenne mon fils de cette façon, 4 ans et 3 mois? Qui peut supporter d'être sans nouvelles de son garçon depuis si longtemps?
La marque de fabrique du régime de Sissi, ce sont les disparitions de forcés. C'est ce qui fait peur aux gens. Si ça ne dérange pas le régime français, ou l'État français, d'être partenaire avec un régime qui commet un crime contre l'humanité. Il n'y a pas beaucoup à attendre de la France. Fermer les yeux devant de telles violations emmène et augmente les chances de radicalisation, d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Et c'est notre ennemi commun qu'il faut combattre. Et pour le combattre, efficacement et on combat le terrorisme à travers la justice et non pas avec de grands bateaux militaires.
C'est également l'avis d'une source militaire française qui a accepté de nous rencontrer à Paris à condition qu'elle ne soit pas identifiée.
Il y a une hypocrisie incroyable entre notre position publique, ce soi-disant partenariat avec l'Égypte. Notre seul intérêt stratégique là-bas, il est industriel. C'est du vent qu'on soutient la lutte antiterroriste dans ce pays. Depuis 2014, sur les 8 milliards d'euros de contrats, quasiment rien ne sert réellement à la lutte antiterroriste. Il n'y a que l'état-major des armées en France qui s'est à un moment inquiété de la sophistication des sonars. Personne n'a freiné au Quai d'Orsay. Ni les droits de l'homme, ni les inquiétudes des militaires ne sont au final entrés en ligne de compte. Tout est balayé par l'impératif de vente.
Vous venez d'entendre un extrait du film d'Anne Poiré, Mon pays fabrique des armes. Cet extrait nous rappelle comment l'Égypte du dictateur militaire, le général Sissi, traite ses opposants. La France a vendu des armes de guerre, mais aussi des systèmes de surveillance de la population à l'Égypte. Anne Poiré a enquêté en France sur le commerce de ces armes et voici comment elle introduit son film « Mon pays fabrique des armes ».
La France fabrique des armes. La France exporte ses armes, principalement au Moyen-Orient. François Hollande et son gouvernement, plus que tout autre avant lui, a vendu des armes.
Vous avez été capable, grâce à vos performances, de nous permettre d'avoir des contrats à l'exportation qui n'ont jamais été aussi élevés ces dernières années.
La France est même devenue le troisième exportateur mondial d'armement. Pourtant, de ce fleuron industriel, de ses usines, de ses 165 000 salariés, nous ne savons rien.
Je dirais que c'est une industrie qui n'a pas besoin que les médias s'intéressent à elle. Donc, en l'occurrence, on essaye d'éviter de parler, de trop parler de ce qu'on fait.
Est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeurs humanistes de la France? À qui est-on prêt à vendre pour préserver ces emplois-là? Pourquoi est-ce à ce point un angle mort du débat public?
Tout est couvert par le secret défense. Tout. Absolument tout.
Nous sommes partis à la découverte de cette industrie taboue.
Fabrique des armes, c'est le titre du documentaire à voir sur LCP ce soir.
Et ce qui frappe d'abord, ce sont tous les refus. Non, il n'est pas possible de venir filmer notre usine. Non, les tournages ne sont pas autorisés dans les ateliers de fabrication. Oui, nous avons bien reçu vos 37 mails, mais c'est non. La journaliste Anne Poiré, prix Albert Londres, a pris soin d'enregistrer ses conversations au téléphone pour montrer l'ampleur du secret. La France est le troisième exportateur mondial d'armement. Le secteur concerne quelques 4000 PME dans l'Hexagone, une dizaine de grands groupes. Et pourtant, de ce fleuron industriel, de ses 165 000 salariés, nous ne savons rien, ou presque, parce que cette industrie n'a pas besoin d'être médiatisée. Le documentaire nous conduit donc à la découverte de cette industrie taboue. Dans le département du Cher, par exemple, missiles et munitions sont une spécialité locale. Nexter et MBDA, deux fabricants d'armes, y ont installé des usines. Et à la chapelle Saint-Ursin, près de Bourges, celui qui est ravi d'en parler, c'est monsieur le maire dans sa voiture.
Nexter est le premier employeur sur notre commune, en effet. L'effectif doit être proche de 400 salariés sur le site local.
Alors Nexter est ici, ils font l'ensemble de la munition, depuis la douille et la charge explosive.
Logiquement, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de filmer, mais enfin bon, on va passer en vitesse. Voilà, là c'est l'entrée. On ne va pas se faire repérer, parce que sinon on va se faire... Donc nous on dit, on entend partout, c'est la crise de l'industrie. Globalement ici l'industrie va pas si mal.
C'est une industrie qui se porte bien, en effet. Merci pour elle. Sous le mandat de François Hollande, le montant des commandes d'armes françaises à l'étranger a été multiplié par 4.
Toute la question est de savoir à qui sont vendues ces armes et pourquoi faire.
Et surtout, la France est-elle en train de piétiner ses engagements internationaux? Parce que notre pays a signé un accord sur le commerce des armes, le TCA, qui date de 2014. Que dit cet accord? Si un État a connaissance que les armes peuvent être utilisées contre des civils, il ne doit pas les vendre. Quand l'Arabie Saoudite, l'un de nos clients, est accusé de commettre des crimes de guerre au Yémen, quand l'Égypte, autre client, réprime sa population civile, il y a des questions qui se posent. Et ces questions, personne ne veut ni ne peut y répondre. On est face à un grand tabou. Voilà, un documentaire que je recommande vivement. Il est très bien ficelé, très clair sur un sujet parfois complexe. Il pose surtout des questions indispensables. Faut-il faire évoluer notre doctrine en matière de vente d'armes? Est-il sain pour notre démocratie que les exportations d'armement échappent au contrôle des citoyens?
Après cette chanson de Daniel Messia, nous écoutons à nouveau la journaliste et documentariste Anne Poiré au sujet de son film « Mon pays fabrique des armes », film récemment rediffusé sur la chaîne parlementaire. Anne Poiré, à l'occasion de la première diffusion de son film en 2019, répond à des questions de la journaliste de Sud Radio.
Alors, il y a l'Égypte, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite qui pose problème, surtout ces derniers temps avec dans la guerre du Yémen et les missiles aujourd'hui. Alors, vous en avez parlé assez facilement. Les missiles aujourd'hui, forcément, qui tuent des civils, ce qui est à la base totalement interdit dans le cadre du traité que vous avez évoqué, mais malheureusement, on est en état de guerre. Ces missiles aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ce soit aujourd'hui des missiles français. On sait que ce sont des missiles américains, mais on ne sait pas si ce sont des missiles français.
Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que des missiles français, effectivement, aient pu commettre des crimes de guerre, si vous voulez. La plupart des morts civiles et des crimes de guerre qui sont suspectés, accusés les Saoudiens et les Émiratis au Yémen sont notamment le fait de l'aviation. Mmh. Et donc c'est plutôt des avions et des missiles vendus par les Américains et les Anglais. Sauf que, effectivement, Jean-Yves Le Drian a dit en commission des affaires étrangères en début d'année il faut arrêter, c'est pas la France qui peut être suspectée, accusée de commettre les armes françaises qui peuvent être utilisées, puisque nous ne vendons rien à la chasse saoudienne. C'est pas vrai, on vend des pods, ce sont des outils qui sur les avions de chasse permettent de désigner les cibles. Mmh. Donc on ne trouvera jamais ces pièces, évidemment, puisqu'elles sont embarquées dans l'avion. Donc on ne les trouvera pas sur un site de crimes de guerre, mais pourtant on les vend. Et pourtant, ils sont utilisés dans ce conflit au Yémen.
Alors le problème, c'est justement entre le profit et l'éthique. Hein, c'est un peu le problème de la vente d'armes. Et le secteur économique, en tout cas, c'est un secteur extrêmement prospère, on l'a dit, pour les régions. Et surtout pour l'emploi, on l'a dit, mais surtout les régions comme tout le Bordelais, par exemple.
Le Bordelais, Bourges. Ça a été très frappant pour moi, effectivement, d'aller à Bourges où il y a des usines d'MBDA qui donc ont fabriqué le plus grand missilier d'Europe, mmh. Qui est une société anglaise aussi, italienne mais française, l'ancien Matra. Donc ils ont des usines à Bourges, ils ont des Nexter aussi à des usines à Bourges où ils fabriquent les canons César et juste à côté les munitions pour ces canons qui sont employés dans la guerre au Yémen. C'est vrai qu'il faut avoir conscience que ces régions, dans ces régions-là, il n'y a pas beaucoup d'autres emplois en fait. Hein. Donc ce sont des entreprises prospères, vous l'avez dit, qui embauchent. Donc voilà, c'est évidemment un débat très complexe, hein. Il faut tout à fait avoir confiance de ça, et pour ces régions c'est tout à fait central, hein. Et c'est très compliqué. Donc
il y a beaucoup de maires qui les défendent,
et voilà, il y a des maires qui les défendent parce qu'ils font très bien vivre ces régions, donc
parce qu'il y a cette entreprise, mais il y a aussi Thales, il y a Dassault, il y a Safran, il y a Renault,
bien sûr.
Non, ouais. Ce sont des, voilà, simplement c'est pas qu'un débat éthique et moral, c'est aussi un débat légal, hein, puisque ce qu'avancent les ONG, c'est qu'on a signé ce traité. Alors les Américains on l'avait signé mais pas ratifié, il semble qu'ils sont en train d'en s'en retirer complètement. Peut-être que la France, si elle ne peut pas le respecter, il faut peut-être qu'elle en sorte. Mais il y a probablement
Il y a quand même un souci, quoi qu'il en soit. Parce que si on n'est pas nous-mêmes à fabriquer en fait des armes, si on ne poursuit pas la technologie, d'autres l'auront et vendront, quoi qu'il en soit, en fait, ces armes. Quoi. Donc il faut toujours aussi maîtriser la technologie. C'est ce qu'on doit vous répondre chez les politiques, quoi, non ?
Tout à fait. C'est ce que François Hollande, dans son dernier discours, probablement un de ses derniers discours de président, c'est un déplacement à MBDA à Bourges, où effectivement, il termine son discours en disant vive MBDA, vive République et vive la France.
Il dit pas vive les armes, mais il dit...
Il dit vive MBDA, vive la République, vive la France, pour terminer. Mais il dit, si c'est pas nous, ce sont les autres, en effet.
Bah oui, c'est
bon,
ça.
Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, j'ai pas de réponse, sans savoir s'il faut qu'on continue à vendre ces armes à l'Arabie Saoudite. Ce qui est nécessaire, c'est un débat. Aujourd'hui, il commence vraiment, il est naissant ce débat en France, mais jusqu'à ces derniers mois et vraiment presque ces dernières semaines, il était inexistant en France. Il faut vraiment
c'était
avoir conscience
vraiment.
Il y avait en Allemagne, en Angleterre, les gens débattent de ça, dans les parlementaires en débattent, ils s'étripent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des, ce sont des questions très complexes. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a, voilà, qu'il faut pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de réponse simple, mais il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat avec des éléments concrets. Et il faut qu'il y ait plus de transparence. Il faut que les parlementaires se saisissent de ces questions.
Oui, mais la transparence en matière de défense, vous savez, c'est extrêmement compliqué, puisque
ça se pousse.
Mais il y a aussi un point important, c'est vendre des armes à des pays instables qui pourraient éventuellement se retourner contre nous.
Alors, ça fait partie des discussions qui.
On a déjà vendu des armes à des pays qui sont retournés contre nous.
La Libye, on a vendu des armes. Voilà, on a vendu des armes à des pays avec lesquels après on a été en guerre. Au tout début des années 80, la Libye avait des armes, avait des avions qui combattaient les nôtres en face du Tchad. Donc ça sont des situations qui arrivent. Ce sont des situations dont ont tout à fait conscience les gens qui prennent les décisions. Le ministère des Armées, par exemple, c'est une des premières questions qu'il va poser en siège. C'est-à-dire, est-ce que ces armes vont se retourner contre nous ? C'est un des risques évidemment qui est étudié. Ouais. Donc ils ne font pas n'importe quoi, hein, de ce que je peux en comprendre, puisqu'encore une fois, on ne me parle pas.
Est-ce que vous avez eu du mal à réaliser votre enquête ?
Oui, c'est très difficile parce
c'est
que
vrai.
Par définition,
les portes sont closes.
Voilà, on ne parle pas. Donc ces discussions sont confidentielles défense. Donc c'est très pratique le confidentiel défense. Voilà, c'est secret, on peut pas en parler. Secret de la défense nationale. Donc on répondra pas à vos questions. Il y a évidemment des choses. Vous le disiez, la défense c'est un sujet sensible. Vous avez parfaitement raison. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir.
Ouais.
Les détails de certains
fabrications.
Bien sûr, ça ne doit pas être public. Mais le comment ce que les politiques se fondent pour vendre des armes. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite est notre premier client en termes de licence, c'est-à-dire que c'est pas forcément le premier à qui on arrive à en vendre, parce que la compétition, vous l'avez dit, est féroce. Mm-hmm. Mais c'est le premier pays à qui la France dit aux industriels, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez vendre. C'est des discussions qu'il faut qu'on ait avec les collectivement.
Oui.
Est-ce que vous avez eu peur, je sais pas, de pression? Vous avez subi des pressions?
Non, j'ai subi aucune pression. On est quand même dans ce pays. Alors, mes camarades de Disclose, eux, c'est une autre affaire. Hein.
Ouais. C'est-à-dire, c'est...
Ben, ils ont été convoqués. Vous savez qu'il y a sept journalistes sur des affaires de vente d'armes à l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit au Yémen.
Pour compromission du secret de la défense nationale.
Voilà, Donc voilà, ça c'est de point de vue des menaces. Non, on est dans un pays, je l'espère jusqu'à présent en tout cas, où on peut discuter de ces questions. Ne pas avoir beaucoup de réponses, mais dans le documentaire, officiellement j'en ai pas eu. J'ai quand même beaucoup de gens, et je le raconte dans le livre, qui me parlent off, donc j'ai pu avoir des gens à l'Élysée, au Quai d'Orsay, dans l'équipe France même, des gens qui m'ont raconté les coulisses de ces années-là, mais on est quand même dans ce pays où on se fait pas... On n'a pas besoin de s'exiler.
Oui, c'est vrai.
L'arrivée d'Emmanuel Macron, parce que qui a un peu dissolu l'équipe France, est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron change quelque chose finalement?
Pour l'instant, probablement pas. Ce qui est nouveau, si vous voulez, et ça on le sent quand effectivement on parle à des gens off, hein, parce qu'à nouveau les gens ne parlent pas, même dans cette équipe, c'est qu'il y a une conscience qu'il y a un problème avec le Yémen et avec l'Arabie Saoudite. Donc ils sont très conscients de ça et il y a un énorme malaise aujourd'hui. Il y a aussi un contexte politique qui a évolué. Il y a eu le meurtre du journaliste Khashoggi en octobre, qui a fait que la conversation a dû. Moi, ils ont pu ne pas me répondre, mais tout d'un coup, ce scandale planétaire a fait qu'ils ont dû. Ils ont été interrogés sur ces questions. Ils ont dû fournir des réponses. Et là, on s'aperçoit que quand ils parlent, ils mentent, malheureusement. Donc, ça pose d'autres questions, mais... voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas, on est en attente. Normalement, le 1er juin, le ministère des armées aurait dû publier le rapport au Parlement. Hein, je vous rappelle, c'est le rapport au Parlement, ce sont les seuls chiffres publics qu'on ait. Hein, c'est comme ça qu'on sait qui sont nos clients. Ils auraient dû le publier le 1er juin, on l'attend toujours. Mais on va voir qui sont, quelle évolution il y a, si on a vendu plus d'armes, moins d'armes, si l'Arabie Saoudite est toujours notre premier client en termes de licence et l'Égypte notre premier client en termes de livraison.
Vous avez entendu la réalisatrice Anne Poiré vous parler de son film « Mon pays fabrique des armes ». Je vous conseille d'ailleurs de revoir ce film dans les archives de la chaîne LCP, car ce film est toujours d'actualité. Après son film, et parce qu'il y avait certainement encore beaucoup de précisions à apporter à ce commerce des armes de la mort, Anne Poiré a écrit un livre qui a pour titre « Mon pays vend des armes ». Ce livre est très riche en informations sur les vendeurs d'armes et sur les clients de la France. Il a été publié en 2019 aux éditions des Arènes et a suscité l'intérêt de quelques médias comme France 24. Sur cette chaîne, Anne Poiré présente son livre.
Alors au fil des pages, on découvre l'omerta, l'opacité qu'il y a autour de cette industrie. Vous documentez, vous racontez le nombre de refus assez sidérants que vous avez dû subir pour faire votre enquête. Et dans l'enquête de nos confrères de Disclose, qui était à votre place il y a quelques jours, enquête sur l'utilisation faite par l'Arabie Saoudite d'armes françaises au Yémen. Une enquête dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et qui est venue percuter beaucoup de choses dont le gouvernement français se disait jusqu'ici, fracturer une ligne.
Oui, c'est sûr que le problème de ce confidentiel défense, effectivement, c'est que ça comme on ne peut pas savoir comment sont vraiment prises les décisions, on s'aperçoit que quand de temps en temps il y a des enquêtes comme ça qui sortent et que des documents sont publiés, on s'aperçoit qu'il y a un hiatus, il y a une différence entre ce que le gouvernement nous dit et ce qu'on peut vraiment constater dans les documents. Mais parfois, on n'a même pas besoin d'avoir des documents classifiés, puisque sur votre antenne en octobre de l'année dernière, Emmanuel Macron avait affirmé que l'Arabie Saoudite n'était pas un client important de la France. Or, le rapport au Parlement, qui est publié chaque année, qui sont les propres chiffres donnés par le ministère des Affaires étrangères, montrent que l'Arabie Saoudite, en termes de commandes et de notre quatrième client, mais en termes de livraison, c'est notre deuxième client, et en termes d'autorisation, ce dont vous parliez, les dérogations, les licences, c'est même notre premier client. Et ça, c'est public, donc on n'a même pas besoin d'aller chercher derrière du confidentiel défense.
Il y a quand même dans ce document de nos confrères de Disclose des éléments qui révèlent, c'est ce que disent ces journalistes, des mensonges d'État.
Absolument.
La France, depuis des mois, a dit que les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite, utilisées au Yémen, ne sont pas utilisées dans des cas de défense. Il est prouvé que ce n'est pas le cas. Il a également été prouvé que ces armes sont utilisées, ont pu être à l'origine de la mort de civils. Et effectivement, cette contre-vérité d'Emmanuel Macron sur notre antenne que vous évoquiez tout à l'heure. Et la réponse du gouvernement jusqu'ici, ça a été de convoquer ces journalistes devant les services de renseignement. Comment expliquer que cette ligne ne bouge pas, y compris face au principe de réalité?
C'est incompréhensible. Les mensonges répétés du gouvernement sont incompréhensibles, en fait. Il y a vraiment un moment où il faut qu'on puisse avoir un débat en France dans la transparence et avec des énoncés qui ne sont pas ceux-là, parce qu'en effet la ministre des Armées il y a plus d'un an avait dit que des armes avaient pu être vendues qui n'étaient pas supposées être utilisées, après que c'était des armes qui étaient uniquement défensives, après qu'elle n'avait pas connaissance que des armes étaient utilisées. Donc bon, voilà, mais elle n'est pas la seule. Je vous ai parlé d'Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian, devant des parlementaires en commission des affaires étrangères, a affirmé que on ne vendait que les victimes civiles n'était que le fait de la chasse saoudienne au Yémen et que nous ne vendions rien à l'armée de l'air saoudienne, ce qui est absolument faux. Il y a des pods de Thalès qui sont vendus depuis 2015 à l'Arabie saoudite.
Ce sont des choses, pardon, qui vont sur des éléments aériens.
Voilà, c'est ce qui permet d'aider à la désignation des cibles sur des avions de chasse. Donc voilà, il y a tous ces... Il est vraiment temps qu'il y ait un débat où on puisse avoir des... Parce qu'ils nous demandent de leur faire confiance, en fait. Ils nous disent, on ne peut pas vous expliquer, c'est couvert par le confinement. Financière défense, la France ne fait pas n'importe quoi, ce qui est vrai, hein, la France ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Le problème, c'est les détails. Et quand on constate ces mensonges, ça n'est pas propre à donner confiance dans ce débat.
D'autant plus que la France est signataire d'un traité, et vous le rappelez dans votre livre à plusieurs reprises, d'un traité sur la vente d'armes, signataire en 2014. Tous les pays ne le sont pas. Les États-Unis n'ont pas signé ce traité qui l'engage à n'autoriser aucune vente d'armes dans des situations où elles pourraient effectivement être utilisées pour commettre des crimes et des attaques contre des civils. Autre exemple, Anne Poiré, que vous citez dans votre livre, le premier client de l'industrie de la défense française, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, donc c'est l'Égypte. La question que vous posez, c'est est-ce qu'avec ces contrats d'armement colossaux, il a notamment été question de rafales vendues à l'Égypte du maréchal El-Sissi, eh bien l'Égypte n'aurait pas acheté le silence de Paris, sur la question des droits de l'homme notamment.
C'est ce que me disent des sources au sein du Quai d'Orsay, hein, qu'on leur demande de ne pas s'exprimer réellement sur les ventes d'armes, sur les droits de l'homme en Égypte. Il y a effectivement une priorité qui a été donnée, en tout cas sous François Hollande, à la vente d'armes des Rafales. Ce sont nos premiers acheteurs de Rafales. Après, ça a permis à l'équipe France, organisée derrière Jean-Yves Le Drian à l'époque, de vendre d'autres Rafales. Et donc, avec un contrat à Rafales, c'est toute une industrie qui va avec. C'est les missiles, c'est tout un ensemble d'entreprises et de contrats qui vont avec l'avion lui-même. Et donc, effectivement, il y a toute cette discussion qu'on aurait dû avoir sur l'Égypte, hein, qui est complètement chantée par le Quai d'Orsay, sur les disparitions forcées, notamment. Les ONG de droits de l'homme dénoncent plus d'un millier de disparitions, de gens qui sont arrêtés, dont les familles n'ont absolument plus de nouvelles, ce que contestent les Égyptiens. Et donc, cette parole sur les droits de l'homme, aujourd'hui, française, n'est pratiquement inexistante.
Quand vous posez les questions qui dérangent Anne Poiré, on vous répond deux choses. Toutefois, quand on veut bien vous répondre, d'abord, c'est que cette industrie de la défense française, c'est une très grosse industrie, plusieurs milliards d'euros, 200 000 emplois à haute valeur ajoutée, et que ça vaut la peine d'être défendu, c'est ce qu'on vous répond. Et puis, l'autre chose qu'on vous dit, c'est si ce n'est pas la France qui vend des armes, alors demain, ça pourrait être la Russie, les États-Unis et la Chine.
Oui, mais c'est ce que François Hollande, dans un de ses derniers déplacements en tant que président, a exprimé dans une visite à MB BDA, qui est donc un plus grand missilier d'Europe à Bourges. Il a effectivement tenu ce discours en disant que si c'était pas nous, ce serait d'autres. C'est une industrie, c'est un sujet qui est très complexe. Hein. Il faut pas simplifier les choses. Et c'est pour ça qu'il faut. C'est un sujet qui est très intéressant, très compliqué. Il faut rentrer dans les détails pour comprendre les enjeux. Et évidemment, il y a des emplois souvent qui sont dans des régions qui sont très fragilisées en France. Je parlais de Bourges, c'est le principal employeur, BDA avec Nexter. En dehors de ces deux fabricants de missiles et de munitions, il n'y a quasiment pas d'employeurs. Et ce sont des bons employeurs qui emploient, qui embauchent, qui continuent à embaucher. Donc évidemment, c'est un sujet complexe, mais la question, moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Et notamment au sein du Parlement, il y a un débat qui commence, qui est naissant. On peut noter qu'il y a des commissions parlementaires qui se saisissent de ces questions. En tout cas, il y a des passages de ministres, des auditions de ministres qui se passent beaucoup moins bien qu'elles se passaient auparavant. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être faites à ce niveau-là pour plus de transparence.
À ce propos, effectivement, on a parlé ces dernières semaines de la mobilisation d'ONG qui ont empêché notamment que soient chargées à bord de cargo direction l'Arabie Saoudite des armes françaises. Ce sont des opérations ponctuelles qui ont été notamment la conséquence de l'enquête de nos confrères de Disclose. Mais on le comprend, et vous le disiez à l'instant dans votre récit, qu'il y a extrêmement peu de garde-fous. Les parlementaires, vous le disiez, n'ont pas accès à cette commission qui est sous le cachet du secret défense. Mais plus on ferme des portes, plus on crée du fantasme. Finalement, c'est assez contre-productif.
Ben moi, c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est-à-dire que cette commission des affaires interministérielles, je n'ai même pas pu filmer, quand je tournais le documentaire, la salle où elles se réunissent, ce qui est quand même assez absurde, parce que voilà, c'est une salle vide, on aurait pu tout à fait la filmer. Donc il y a cette position de principe, en fait, qui manque de transparence problématique, mais au-delà de ça, la question, c'est les détails, en fait. Et c'est de savoir quelle arme on vend à quel moment, est-ce qu'à ce moment-là, ça contrevient au traité qu'on a signé, ou à la position commune européenne aussi, qui est qui fait partie de nos engagements internationaux. Ça, le problème, ce sont les détails. C'est-à-dire que le système semble robuste, en effet, mais le problème, c'est que quand on rentre dans les détails et qu'on a accès à des documents, qu'on a accès à des personnes qui vous parlent et qui prennent ce risque-là, on s'aperçoit que là, il y a des problèmes.
Jamais l'industrie de l'armement ne s'est aussi bien portée en France, vous le disiez, et vous l'évoquiez, le virage s'est fait au moment du mandat de François Hollande, notamment autour du super VRP qui était Jean-Yves Le Drian, qui est toujours ministre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que l'industrie de l'armement française décolle à ce point ?
D'abord, il y a un contexte, il y a un réarmement mondial notable. Il y a eu un retrait des Américains sur un certain nombre de dossiers, un certain nombre de pays, notamment en Égypte, qui, eux, ont un peu freiné les livraisons au moment de 2013 et de la prise de l'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi et du massacre du Caire de d'août 2013. Donc il y a eu ce double effet, plus une volonté politique extrêmement forte de François Hollande et de Jean-Yves Le Drian, qui a constitué une équipe, ce qui s'appelait l'équipe France, au sein du ministère de la Défense, pour coordonner les industriels, aller ensemble auprès des acheteurs, proposer une offre. Il y a vraiment une volonté comme ça très très forte du pouvoir politique de vendre des armes pour équilibrer la loi de programmation militaire. De programmation militaire, et donc vendre le Rafale à tout prix. Et avec ça, effectivement, c'est cet entraînement de toute l'industrie française.
Et puis l'Arabie Saoudite est également entrée en guerre au Yémen contre les Houthis. Elle, qui vous lisez dans ce livre, jusqu'ici avait tendance à stocker une grande partie des armes qu'elle achetait, ce qui a aussi peut-être changé la donne. Vous citez ce syndicaliste dans votre livre à propos de ce virage au moment du quinquennat de François Hollande. La distinction à ce moment-là entre les pays qui avaient besoin de s'armer pour se défendre et ceux qui le font pour faire de l'expansion a été perdue.
Oui, bien sûr. Et quand vous parlez aux gens de l'équipe France qui acceptent de vous parler off, hein, parce qu'évidemment personne ne m'a parlé directement, ils vous expliquent que sur l'Arabie Saoudite, pour eux, ça n'a pas très bien marché. Alors on se dit, ah bon, vous êtes mis des freins avec l'entrée en guerre au Yémen. Ils disent, non, pas du tout. On aurait dû vendre beaucoup plus. Simplement, il y a eu un changement de pouvoir. MBS, enfin, nos réseaux ont changé. On n'a pas réussi à trouver le centre de commandement réel. Donc en réalité, on aurait dû vendre et on aurait voulu vendre beaucoup plus que ça à l'Arabie Saoudite dans ces années de conflit.
Un mot peut-être de nos voisins. Vous parliez d'une règle européenne qui chacun fait un peu ce qu'il veut derrière. On parle beaucoup de l'Allemagne qui, elle, a arrêté ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce que les choses sont moins opaques chez nos voisins étrangers?
Alors, chez nos voisins étrangers, il y a un débat, ce qui est absent, qui était absent jusqu'à présent. C'est encore un petit peu en train de changer, mais c'était le cas avant. Il y a un débat. Il y a un débat en Allemagne très fort. Il y a un débat en Angleterre. Il y a des ONG qui portent le débat sur un plan judiciaire. Ça n'empêche pas que des armes soient livrées, ça n'empêche pas, les ONG anglaises sont très critiques de leur gouvernement en disant que effectivement, malgré le TCA, malgré la position commune européenne et leurs propres règles, ils livrent quand même notamment des munitions et des avions à la chasse saoudienne. Et les Allemands, ce qui énerve énormément la France, c'est que les Allemands ont cette position de façade très forte et que par ailleurs, ils ont des succursales et des filiales qui leur permettent de vendre quand même, par exemple, via l'Italie, des armes. Donc c'est pas si simple, mais c'est pas pour ça, et souvent les gens du Quai d'Orsay s'exonèrent un peu en disant, mais regardez, il y a un débat ailleurs et pourtant nous ne vendons pas des munitions ou des rafales à l'Arabie Saoudite, mais c'est pas pour ça qu'on ne vend pas de rafales, c'est parce qu'on ne peut pas à l'Arabie Saoudite, c'est un autre problème, et c'est pas ça n'empêche pas ce débat, enfin ce débat devrait avoir lieu en France.
Votre ouvrage Mon pays vend des armes, justement, extrêmement détaillé, une très longue enquête qui fait donc écho à un documentaire qu'on peut retrouver sur le site, je pense, de nos confrères de LCP. Mon pays vend des armes, donc aux arènes, pour ouvrir ce débat.
Ma Marseillaise à moi, elle est chaleureuse et ensoleillée, elle se réveille de bonne humeur, elle chante en arrosant ses fleurs, elle raconte des histoires, elle exagère, mais il faut la croire. Ma Marseillaise à moi, elle passe des heures à regarder la mer du haut de son balcon. Vers la Canebière, elle se régale de la couleur du ciel. Et si ses frères ont émigré au nord, elle préfère rester près du vieux port. Ma Marseillaise à moi, elle est courageuse et entreprenante, elle aime à se rendre appétissante, généreuse et attirante. Comme toutes les femmes de caractère, elle s'enflamme parfois en un éclair. À moi, elle est comme toutes les femmes de la terre, elle est unique à l'évidence, sauf qu'elle est née au sud de la France.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu la Marseillaise de Charles-Élie Couture, une Marseillaise bien sûr adaptée, et nous reprenons la présentation de l'œuvre de la journaliste Anne Poiré. Anne Poiré nous a parlé dans la première partie de cette émission de son film « Mon pays fabrique des armes » et de son livre « Mon pays vend des armes » publié en 2019. Alors je vous rappelle que Anne Poiré mène des enquêtes sur les pays qui ont subi des guerres. Je pense qu'il est intéressant d'entendre le début de son film « Mouture, un crime contre l'humanitaire », diffusé sur France 5 en 2007, film qui lui a valu le prix Albert Londres, et qui fait référence à la suite de la longue guerre qui a opposé pendant plusieurs années l'armée du Sri Lanka et des tigres tamouls. Le 4 août 2006, 17 employés de l'organisation non gouvernementale Action contre la faim ont été assassinés à Mutur, une ville à l'est du Sri Lanka. Depuis, aucune enquête sérieuse n'est en cours. Les familles des victimes régulièrement menacées cherchent à fuir l'île. La France reste sourde à leur demande d'asile. Annoncé par un générique qui rappelle les enquêtes criminelles, le film d'Anne Poiré est un documentaire au rythme nerveux qui tente de dénouer les fils de ces meurtres. Ceci est écrit dans le journal Le Monde. En août 2006, l'armée sri-lankaise et les tigres tamouls s'affrontent dans de violents combats à Mutur. Les tigres tamouls ont choisi la voie des armes pour combattre les discriminations subies par la minorité tamoule implantée dans le nord et dans l'est du Sri Lanka. Des affrontements entre l'armée nationale et les tigres tamouls surviennent entre autres avec l'aide des ONG. Il n'en faut pas moins pour que le gouvernement perçoive les ONG comme des soutiens à la cause tamoule. Alors voici le début du documentaire d'Anne Poiré.
C'est un meurtre prémédité.
Il n'y a pas de témoin ?
Non, pas de témoin.
Est-ce qu'il parlerait ?
Non. Si ACF nous avait dit qu'il ne pouvait rien faire pour eux, on aurait pu au moins en sauver 10.
S'il y avait eu un Français et que lui aussi avait été tué, les choses seraient très différentes.
Est-ce que vous êtes au courant que les familles, que les témoins reçoivent des menaces et des pressions ?
Non, je n'ai rien entendu de tel.
C'est pas l'armée qui a fait ça. L'armée ne ferait jamais une chose pareille.
Alors ce sont les tigres tamouls ?
Oui, bien sûr.
Ils ont été abattus de sang-froid. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute. C'est l'armée sri-lankaise qui a tué ces jeunes gens.
La première chose qui vient, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et est-ce qu'à un moment ou à un autre, on aurait pu empêcher.
Le 6 août 2006, 17 salariés d'Action contre la faim sont retrouvés morts dans leur bureau de Mutur, à l'est du Sri Lanka. 13 hommes, 4 femmes, tous ont reçu une balle dans la tête. C'est le plus important massacre jamais perpétré contre une ONG, mais il n'intéresse toujours personne. Toutes les victimes sont sri-lankaises. Nous sommes allés sur place au Sri Lanka pour enquêter sur ce massacre. 6 mois après, la justice sri-lankaise piétine et les familles des victimes sous pression sont quasiment livrées à elles-mêmes. C'est ici que tout a commencé. C'est d'ici, de Trincomalee, qu'Action contre la faim, ACF, l'une des plus importantes ONG françaises, rayonnait dans cette zone. L'organisation travaille ici depuis 10 ans. Comme partout dans le monde, 90% de leurs employés sont des locaux. Interdiction de filmer cette baie. Les militaires sont sur le qui-vive. La caméra tourne quand même. Chaque semaine, c'est en ferry que les équipes se rendaient à Mutur. Leur mission, apporter nourriture et eau potable aux populations. Des populations touchées ici de plein fouet il y a 2 ans par le tsunami, victimes aujourd'hui à nouveau de la guerre. L'armée est partout dans cette zone à risque. Navettes rapides, bâtiments militaires. La marine sri-lankaise encadre chaque départ pour prévenir les attentats des séparatistes tamouls. Leurs bastions sont tout proches. Le 1er août, donc, à bord du ferry, les 17 humanitaires d'ACF. Ils sont eux-mêmes tous tamouls. La plupart se sont engagés juste après le tsunami. Ce jour-là, ils devaient reprendre le ferry le soir même. Mais le piège de Mutur va se refermer sur eux. À notre arrivée, interdit là encore de filmer la jetée. Passé la première guérite, des officiers de police nous encadrent jusqu'au checkpoint qui ouvre la ville. Officiellement, nous venons faire un reportage sur les conséquences du tsunami 2 ans plus tard.
Enquêtés sur les crimes probablement commis par l'armée du Sri Lanka, telles ont été les intentions et le travail de la journaliste Anne Poiré pour son film « Mutur, un crime contre l'humanitaire ». Je vous recommande de voir ou de revoir ce documentaire dans son intégralité. Vous le trouverez, je pense, en cherchant sur YouTube. Anne Poiré a fait depuis 2007, bien sûr, beaucoup d'autres documentaires qui ont été diffusés pour la plupart sur la chaîne Arte. Je voulais vous parler de celui qu'elle a réalisé en 2021 et qui a pour titre « Enfants de Daesh, les damnés de la guerre ». Le 10 juillet 2017, après 9 mois de combat, Mossoul, la deuxième ville d'Irak où symboliquement le califat avait été proclamé, Mossoul était libérée de Daesh. 4 ans après, à Mossoul, les enfants abandonnés seraient une centaine de milliers. Livrés à eux-mêmes, après les combats contre Daesh, ce sont des orphelins errant dans les rues de Mossoul ou des camps contrôlés par les Kurdes. Sans papier, ils n'ont accès ni à l'école, ni aux soins médicaux, ni à l'aide alimentaire. Ils racontent le lavage de cerveau qu'ils ont subi alors que d'autres ne rêvent qu'à reprendre les armes. Voici comment commence le documentaire d'Anne Poiré.
À Mossoul, en Irak, 3 ans après la fin de la guerre contre l'État islamique et la libération de la ville, partout ces tonnes de gravats et ces milliers d'enfants.
Je vis avec mes 4 sœurs, mes 3 frères et ma mère. Mon père est en prison. Quelqu'un a dénoncé mon père en l'accusant d'être un membre de Daesh. Ils sont venus le chercher. Ils l'ont emmené. On n'a plus eu de nouvelles.
Fils et filles de djihadistes ou anciens enfants soldats, ils sont ceux que l'organisation terroriste a laissés derrière elle, les plus vulnérables.
Dans ce quartier, il y a des gens qui me traitent de Daesh. Je leur parle pas. Ça me fait rien. Qu'est-ce que je peux dire ?
Qui sont ces enfants du chaos, fanatisés hier par l'État islamique, stigmatisés aujourd'hui dans ce nouvel Irak ? Comment cette génération pourra-t-elle se reconstruire dans ce pays brûlé par la guerre ? La société leur laissera-t-elle seulement une chance ? De 2014 à 2017, Daesh a tenu un territoire grand comme le Royaume-Uni, à cheval sur l'Irak et la Syrie, et administré la vie de plusieurs millions de personnes. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, était l'une des 2 capitales du groupe terroriste, là où fut proclamée la restauration du califat. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de leurs enfants survivent dans les faubourgs déshérités des villes. Les services de sécurité leur refusent de nouveaux papiers d'identité. Sans eux, ils n'ont aucune existence légale. Ils n'ont accès ni aux soins médicaux, ni à l'aide alimentaire, ni surtout à l'école. Yasser est né avec le califat. Son père était un cadre important de l'administration de Mossoul sous l'État islamique.
Quand je suis allée à l'école, ils m'ont dit « Sors, ton père est de Daesh. Sors. T'as pas de papier d'identité. Sors. Toi et ta mère, sortez. » Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? Qu'est-ce que je pouvais dire ? Ce monsieur est plus âgé que moi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Rien. J'ai tout compris, tout. J'étais debout devant lui. Et il parlait. J'étais en face de lui. Je vois les enfants aller à l'école. Moi aussi j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'apprendre à compter. 1, 2. Et quand j'aurai réussi mes études, je deviendrai docteur. Je veux aider ma famille. Parfois, des enfants du quartier me jettent des pierres. Ils me disent, ton père était de Daesh. Tu es le fils d'un Daesh. Moi, je me souviens pas de lui.
Depuis 3 ans, Yasser grandit ainsi, en vase clos, auprès d'une dizaine de frères et de cousins. Les femmes se regroupent dans la peur des représailles et, comme sa mère, tentent de blanchir leur nom avec l'aide d'avocats.
Si tu veux faire une carte d'identité à ton fils, tu dois faire une demande au tribunal. Tu dois renier ton mari qui était de Daesh, celle à Tabria. Ta carte d'identité portera alors la mention « divorcée ». Tu as compris ? Sache que tu ne seras ni la première ni la dernière à le faire. Il faut que les femmes puissent accéder à leurs droits, que leurs enfants étudient. Il faut tourner la page définitivement. J'ai plus de 200 cas d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école faute de papier.
Dans ce documentaire plein d'humanité, documentaire intitulé « Enfants de Daesh, les damnés de la guerre », Anne Poiré montre combien il est difficile de réconcilier les populations après plusieurs années de guerre. Voici encore un extrait de son film.
À Mossoul, la reconstruction est au point mort. La vieille ville a été ravagée par les combats de libération en 2017. 9 mois de guerre urbaine et de violences indicibles, auxquelles s'ajoutent les exactions des djihadistes, encore dans tous les esprits. Personne n'est prêt à pardonner. Nabil Hani Younes est le Mokhtar du quartier Ras Al Jadda. Son rôle est de faire le lien entre l'État et les populations. C'est lui qui décide quelle famille a le droit de se réinstaller.
Je représente le quartier. Si quelqu'un lié à Daesh veut rentrer, je dois demander aux habitants ce qu'ils en pensent. Et tous s'y opposent. Là, c'est une maison d'un membre de Daesh. Quelqu'un devait en avoir gros sur le cœur. Il a pris un spray et marqué la maison. Elle est au nom de ce membre de Daesh qui est en prison. Selon la loi, la maison va être saisie. Il avait accroché le drapeau de Daesh ici. À l'époque, il disait: les hommes qui n'ont pas prêté allégeance sont des lâches. Ceux de Daesh ont expulsé les gens de chez eux. Et maintenant, ils sont de retour. C'est normal qu'on les déteste. Quand tu tires à la mitrailleuse en direction d'un avion qui te survole, c'est sûr que cet avion va répliquer et qu'il y aura des morts. Tu penses que les gens vont t'accueillir avec des fleurs après ? Bien sûr que non.
Depuis la reprise de la ville, les forces de sécurité traquent sans relâche ces petites mains du djihad, les lionceaux du califat. Gardes, candidats aux attentats suicides, membres des services de renseignement auxquels Daesh a eu largement recours. Un embrigadement qui commençait par une formation théorique que les plus jeunes enfants payent aujourd'hui au prix fort. Pourquoi est-ce important de cacher ton identité ?
Je ne veux pas que les gens me reconnaissent, car ils détestent Daesh. Quelqu'un qui a perdu un proche, s'il en voit un dans la rue, il le tuera. J'ai commis une erreur dans ma vie, et je la regrette. J'ai suivi les 20 jours de leur formation religieuse. Nous étions obligés. À Mossoul, on crevait de faim. On l'a tous fait pour ça. Ils donnaient aux jeunes des motos et des voitures et 100 dollars chaque mois.
عيونك اويلي انا اشتاق كل يوم احبك اكثر
كل يوم احبك اكثر
حبك كبر فد مره امضيك عنا فكره حبك توقع للموت وصولك بالعشره
Après cette chanson de l'artiste irakienne A.L. Amen, nous écoutons ce que Anne Poiré a déclaré à France Info quand on l'a interrogée sur son film « Enfants de Daesh, les damnés de la guerre ».
Les responsables politiques connaissent l'existence évidemment de ces enfants et de leur dangerosité à moyen terme et du drame que ça représente, du drame humain, du coût humain. Mais c'est pas une urgence. Aujourd'hui, ce sont des victimes et l'Irak a d'autres priorités. Les décideurs ont d'autres priorités. Les diplomates occidentaux aussi. Et finalement, on a cette conscience que ça va être c'est un drame et ça va être un problème à moyen terme, mais c'est loin. Donc voilà, c'est un angle mort, vous l'avez dit.
Et on va regarder ces images qui nous ont, toute l'équipe ici, beaucoup frappé. Vous avez réussi à avoir des témoignages de gens qui travaillent dans les centres de rééducation avec plein de guillemets. Et vous avez pu tourner, je pense qu'on va les voir pendant qu'on parle ensemble, voilà, les images des caméras de surveillance où ces jeunes, ça c'est une des cellules où ces jeunes sont détenus. Alors pour être rééduqués, si tant est que ce terme ait un sens, mais il n'y a pas de rééducation, ils sont laissés un peu à eux-mêmes. Et on se dit que... sans juger, encore une fois, mais traiter et garder des jeunes hommes dans cette situation pendant de longs mois ou des années, c'est à terme effectivement une catastrophe à retardement, de rancœur, de vengeance.
Le juge antiterroriste qui est responsable hein, de ce tribunal et de la prison où sont envoyés
ces agents,
qui nous reçoit, et il est très clair sur la dangerosité de ces enfants, de ce qui est en train de se passer, et il nous fait rentrer dans cette prison parce que lui-même est extrêmement en colère de ce qu'il est obligé de faire et de ce qui se passe après ces condamnations de ces enfants qui sont qui sont supposés être dans un centre de rééducation. En réalité, c'est une prison où des enfants dès l'âge de 12 ans ont été incarcérés depuis 2017 et qui grandissent entre ces murs avec absolument rien qui ressemble à de la rééducation, de la réhabilitation. Ils sont dans ces pièces qu'on a vues. Ils n'en sortent pas quelques heures par semaine. On a eu un témoignage d'un garçon qui y avait passé 19 mois. Il nous disait que c'était une fois par semaine qu'il sortait dans cette cour. Donc il y a absolument rien qui ressemble à de la rééducation, et c'est contraire aux lois irakiennes, et c'est pour ça que ce juge lui-même est extrêmement en colère contre ce qui est en train de se passer, et très inquiet, puisque tout le monde a conscience en Irak que Daesh s'est formé dans les prisons américaines, que c'est des lieux où la haine grandit, où des enfants qui peuvent être encore très fanatisés sont en contact de jeunes qui, pour certains, n'ont rien fait, parce que le garçon qu'on a interviewé a passé 19 mois en préventive, et finalement quand il a été entendu par le juge, au bout de 19 mois on lui a dit, tu as été condamné à 18, donc tu es libre. Donc c'est extrêmement dangereux, oui.
Et dernière image, et puis on renverra chez nos confrères de France 5 évidemment, et sur votre documentaire demain, vous avez quand même été au Kurdistan, me semble-t-il, et on rencontre une maman et un jeune homme qui vous invective en vous disant de toute façon, c'est pas terminé cette histoire, on reviendra, et on les sent encore fanatisés.
Alors, la volonté de Dieu, de vivre selon le Coran, de faire les prières,
Le prophète nous l'a demandé. Il faut recommencer. Jusqu'au jugement dernier.
Voilà, cette femme et ce garçon et cette femme disaient, voilà, on ira jusqu'en Afrique s'il le faut. Ça, c'est ce qui reste pour conclure notre discussion de la propagande de Daesh.
Oui, ce sont les personnes qui ont été mises dans ce camp d'Al-Hol, qui est un camp de 60 000 personnes dans le nord-est syrien. Ce sont les populations civiles qui avaient suivi Daesh, les femmes, les mères et les enfants qui ont suivi Daesh dans sa retraite jusqu'au bout, enfin jusqu'au dernier territoire de Daesh qui est tombé en mars 2019 à Barouz. Et donc, en fait, il y a les femmes les plus radicalisées qui sont encore dans ce camp. Alors, toutes ne le sont pas, mais il y a ces femmes qui sont extrêmement radicalisées encore et qui n'ont pas perdu, dont les idées sont intactes et la propagande aussi. Et donc ces enfants, il y a 20 000 enfants irakiens dans ce camp, ils grandissent auprès de ces femmes avec aucun contrepoids, aucune espèce de déradicalisation ou d'éducation qui leur permettrait même s'il y a un semblant d'école dans ces camps, il y a rien qui leur permettrait d'imaginer autre chose que ce projet politique-là.
Vous attendriez ou les gens attendent une réaction internationale. Il y a Save the Children, je crois.
Il y a beaucoup de monde qui essaye de faire bouger les choses. 60 000 personnes, il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Hein. Dans un désert, il fait 50 degrés l'été, abominablement froid l'hiver.
Il y a ce prêtre français aussi, je crois, que vous avez rencontré.
Oui, alors il intervient côté Kurdistan irakien.
Nous, on l'avait reçu. C'est un travail incroyable.
Auprès des yézidis au Kurdistan irakien. Donc c'est une problématique un petit peu différente. Mais à l'aul, c'est un problème qui concerne, c'est majoritairement des Irakiens et des Syriens, mais il y a aussi les 57 nationalités que Daesh a attirées dans son projet politique et dont les enfants et les femmes sont encore pour certains là. Donc c'est un camp qui est un énorme problème international, un problème politique qu'il faut que les nations arrivent à résoudre. Et l'Irak aussi ne souhaite pas récupérer ces personnes parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et donc ils sont là, on les oublie, mais le problème ne va pas cesser d'exister. 60 000 personnes ne vont pas disparaître comme ça, donc il va falloir adresser ce problème.
Dans son dernier film « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée », la réalisatrice Anne Poiré revient sur les années qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 8 ans de conflit dans l'est de l'Ukraine entre Ukrainiens et séparatistes pro-russes, dont la guerre actuelle n'est que l'acte 2. La journaliste rappelle dans ce documentaire la réalité concrète vécue par les habitants du Donbass avant l'invasion russe. En envahissant l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine stoppe 8 ans de négociations sur le conflit du Donbass. Une guerre avant la guerre, longtemps ignorée. Grâce à l'archive et à la parole des hauts responsables qui ont participé à ces échanges diplomatiques, le film montre ce qui était en jeu, les faiblesses de l'Europe vis-à-vis de Poutine. Rappelons-nous qu'en ce qui concerne la France, Macron a reçu Poutine en grande pompe le 29 mai 2017 au château de Versailles pour l'inauguration de l'exposition sur Pierre le Grand. Et qu'il l'a reçu encore en 2019 dans l'intimité du fort de Brégançon, alors que Poutine a été exclu du sommet du G7 après l'annexion de la Crimée. Dans son film « Ukraine, une guerre annoncée », Anne Poiré a filmé dès 2021 ceux qui subissaient les atermoiements de la communauté internationale et l'enlisement du conflit. Les civils du Donbass vivant le long de la ligne de front.
Pendant 8 ans, les Occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont tenté de régler la guerre au Donbass, multipliant les rencontres, les formats de négociation et de vaines formules d'accord. Les puissances occidentales ont-elles tout mis en œuvre pour éviter l'invasion de l'Ukraine en février 2022 ? Que cela dit-il de leur attitude face à Vladimir Poutine pendant toutes ces années ?
Les pays occidentaux ont longtemps fondé leur politique sur l'idée qu'on ne se fâche pas avec la Russie. Mieux vaut sacrifier l'Ukraine.
La dissuasion repose sur l'armement, mais surtout sur la volonté politique. Vladimir Poutine nous a jaugés et a déclaré qu'on ne lui faisait pas peur.
Voilà pour ces quelques images, Anne Poiré, de ce film chronique d'une guerre annoncée. On ne peut pas comprendre ce qu'il se joue en Ukraine aujourd'hui si on ne comprend pas ce qui s'est joué autour du Donbass.
Oui, je pense que c'était très important. Déjà, nous, quand on a commencé ce film, au moment où, où Vladimir Poutine avait massé ses 100 000 hommes au printemps 2021, on s'est, voilà, de revenir en arrière, en fait, pour comprendre les racines du conflit et aussi l'origine de notre attitude par rapport à Vladimir Poutine.
L'une des questions que vous posez dans ce film est celle-ci. Est-ce que les Occidentaux ont vraiment tout fait ou fait comme il fallait pour éviter ce 24 février 2022?
Bien sûr, c'est la question qui se pose. Le Donbass, le conflit au Donbass arrive dans un contexte où on est déjà en face de Vladimir Poutine. La France essaye de faire quelque chose en Syrie, aux côtés des Américains, face à Vladimir Poutine. Ils sont déjà dans cette négociation au moment où, où la crise du Donbass arrive. Donc tout ça est dans un contexte géopolitique très complexe. Mais effectivement, c'est intéressant de se repencher sur ces étapes et ces renoncements, ces changements aussi, puisque dans les démocraties, notre force, c'est que nous changeons. Donc Vladimir Poutine a eu plusieurs interlocuteurs. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'aussi, au sein des administrations, il y a des points de vue divergents au sein de l'administration américaine. Il y a plusieurs lignes face à Vladimir Poutine. Donc c'était important pour nous de revenir dans ces détails et aussi d'opposer ça à la réalité sur place, en Ukraine et dans le Donbass. On a filmé dès décembre de l'année dernière des personnes qui ont vécu dans leur chair pendant 8 ans ce conflit sur la ligne de contact, l'ancienne ligne de contact. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit à quel point ce conflit a déchiré les familles, à quel point c'est intime en fait, où ces familles sont aujourd'hui irréconciliables. C'est un fils et une mère qui ne se parleront plus jamais. Ce sont des filles qui ne veulent plus parler à leur mère parce qu'elle est passée côté ukrainien et que pour elle, elle a trahi. Et c'est ça qui est abominable.
Il y a ceux qui parlent de la guerre et ceux qui la vivent, dit à un moment un des civils, effectivement, que vous avez rencontré. On y reviendra dans un instant. Ce que vous racontez dans le film, ce sont côté diplomatique, du côté de ceux qui parlent de la guerre. 8 ans de tentatives, parce que les tentatives, il y en a eu, avec des formats Normandie, des accords de Minsk qui n'ont jamais été appliqués, qui sont tous devenus des échecs diplomatiques. D'ailleurs, ni les Européens, ni les Américains, ni les Russes ne sont épargnés dans ce documentaire en réalité. Et les Ukrainiens sont très critiques à l'égard des Occidentaux sur deux choses principalement. Vous le disiez, avoir accordé une certaine valeur à la parole de Vladimir Poutine d'un côté, et puis leurs atermoiements également sur la question de l'armement.
Oui, bien sûr. En fait, on se rend compte que sous Obama, il a été question d'armer les Ukrainiens. Et au sein de l'administration américaine, c'est quelque chose qui a vraiment divisé. Il y avait une ligne qui était très favorable à livrer ses armes et à s'opposer très fortement à Vladimir Poutine. Et une autre qui a eu gain de cause et qui disait, en fait, si on arme les Ukrainiens, si on choisit, si on pousse cette voie militaire, l'armée ukrainienne n'est pas en état de résister. Et donc, elle va perdre. Et donc, ce n'est pas l'intérêt de l'Ukraine de les armer, finalement. Ce à quoi les Ukrainiens, et notamment Pavlo Klimkin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, n'y va pas du tout. Ça aurait tout changé si on avait eu ces armes à cette époque-là.
Et je crois que c'est lui qui dit que le 24 février dernier rend nul et non avenu toute politique occidentale à l'égard de
l'Ukraine. C'est Kouleba, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères qui est effectivement très critique, en fait, qui dit, voilà, tous les calculs, toute cette idée de négocier avec Poutine, de lui parler, en fait, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné, et ce drame du 24 février en est la preuve.
Et dans votre documentaire, on le voit bien à quel point, vous le disiez tout à l'heure, Vladimir Poutine est le seul pion de ce jeu d'échecs qui ne bouge pas depuis 8 ans. Les chefs d'État autour de lui tournent, on est passé de Obama à Trump, Angela Merkel est partie, François Hollande également, et lui est resté là. François Hollande dit de lui qu'il utilise le mensonge comme un élément de négociation. Est-ce que, à l'issue de ce film, vous diriez qu'il y a eu une forme de déni, quoi, sur la réalité du régime de Vladimir Poutine, de déni collectif?
Je pense que, oui, peut-être qu'il y a eu un déni. Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine, et Hollande le rappelle dans le film, a eu gain de cause sur la Syrie. On a tous, et tous les diplomates ont l'exemple syrien qui aurait pu servir de leçon, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a eu gain de cause sur tout. Tout le monde a essayé de négocier avec lui sur la Syrie et tout le monde a échoué. Et il a rejoué ça sur le Donbass. Et c'est vrai que quand, dans un autre documentaire, on a cette parole de Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine qui dit, peut-être qu'on se rendra compte qu'il ment, mais en fait, on sait qu'il ment. Et tout le monde, tous les diplomates le savent, François Hollande le rappelle, Vladimir a menti tout le long, c'est sa façon de négocier. Donc, il faut faire avec.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en s'investissant à ce point, les Occidentaux, sur cette ligne de crête compliquée, qui est celle de l'aide à l'Ukraine, sans pouvoir être taxés de belligérants par Moscou, est-ce qu'ils essaient d'une certaine façon de réparer les erreurs qu'ils ont commises ces 8 dernières années ?
Mais je ne suis pas sûre que ce soit possible. Après, je crois que la ligne est toujours compliquée. La ligne française est toujours très critiquée en Ukraine. Cette idée qu'il faut
continuer
déjà
à parler
de négociations, continuer à parler. Ce que rappellent plusieurs intervenants, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à négocier avec Vladimir Poutine. Il vient à la table de négociation quand il souhaite arrêter les événements militaires ou figer une situation. Mais il n'a jamais souhaité négocier rien.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand vous avez commencé ce film, on est en 2021, avant que l'invasion commence, même si on sent les prémices de quelque chose de plus grand qui se prépare. La réalité, c'est que la guerre dans le Donbass est un conflit oublié, gelé, disent certains, alors qu'en réalité, il y a eu toutes ces dernières années des affrontements. Votre intention première, c'est d'aller à la rencontre de ces habitants qui disent qu'ils vivent dans une espèce de zone grise où tout est gris, le ciel, la terre. C'est ça l'intention ?
Oui, l'idée c'était de rappeler que ces grandes négociations dont on est partie prenante depuis tout de suite, hein, puisque la France s'est impliquée dans le format Normandie, aux côtés des Allemands, dès le départ dans la négociation, donc la France est vraiment partie prenante de ces négociations, et que ces négociations se font au milieu de la vie des gens, en fait, et que ces milliers de personnes qui n'ont pas pu fuir, parce que beaucoup de gens ont fui, hein, ce conflit à ce moment-là, mais des milliers de gens n'ont pas eu cette possibilité, parce qu'ils n'avaient nulle part où aller, parce que y a une grande précarité, et qu'ils, voilà, ne souhaitaient pas, pour certains, partir. Et donc, c'est 8 années d'un conflit qui n'a jamais été gelé. Il y a toujours eu des combats, il y a toujours eu des bombardements. On pourrait dire, peut-être contrôlé, c'est-à-dire que chaque les belligérants savaient jusqu'où il fallait aller, et voilà, ça ne dégénérait pas, mais ça a toujours eu lieu, il y a toujours eu des bombardements. Et oui, c'était important pour nous de rappeler la réalité concrète de terrain, de ces civils qui ont subi ça depuis 8 ans et subi ces grandes négociations autour d'eux, au-dessus d'eux.
D'autant que on parle pas d'un petit territoire, hein, c'est extrêmement grand. Le Donbass, voilà, il concentre les enjeux qui étaient déjà là il y a 8 ans, hein, d'ailleurs, et qu'on retrouve aujourd'hui dans le conflit, et notamment, voilà, sur cette ligne de fracture, quoi, entre la tentation occidentale européenne et la pression russe.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour du Donbass, autour de ces gens, mais au cœur de ce conflit pendant ces 8 années, il y avait toutes ces familles qui étaient déchirées et qui souffraient de ces combats et de cette chose qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas.
Et parmi ces civils que vous avez rencontrés en 2021, donc, beaucoup d'entre eux ont fui, vers Kiev notamment, et vous êtes sans nouvelles de certains d'entre eux.
Alors, en fait, on a tourné dans 2 villages, Zaïtsevo et Opitné. Les femmes qui étaient à Zaïtsevo sont tout de suite parties. C'est intéressant parce que c'est 2 femmes qui ont connu la DNR, qui ont vécu pour l'une d'entre elles. Enfin, toutes les deux, à vrai dire, ont vécu en DNR. Donc, elles savaient exactement à quoi s'en tenir si le village était pris. Elles ont immédiatement choisi de partir. Pour l'une, elle a été détenue, elle a été violentée sous les yeux de son enfant. Donc, elle savait exactement ce qui allait se passer. Elle est tout de suite partie. Aujourd'hui, ce village est complètement détruit. Il a été pris dans l'avancée, en fait, qui est en train de se passer près de Bakhmout, donc une poussée des séparatistes. Donc aujourd'hui, ce village a basculé. Au Pitné, les 2 familles qu'on a suivies, donc Nicolas a fui, il a rejoint Kiev en mai, et il se porte bien. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal à joindre sa mère, mais il y a une petite semaine, il a pu l'avoir au téléphone. Donc, on sait que Larissa est vivante. Elle est dans sa cave. Elle est sous les bombes. Son fils ne sait pas comment elle parvient à se nourrir depuis toutes ces semaines, mais elle est vivante. Et Sacha et Olga, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles d'eux.
Nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez entendu la journaliste Anne Poiré parler dans différents médias de son travail d'enquête et de quelques-uns de ses documentaires. Depuis celui qui lui a valu le prix Albert Londres en 2007, qui s'intitule « Muture, un crime contre l'humanitaire », jusqu'à celui qui concerne l'actualité et qui s'intitule « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée », film diffusé en 2022. Réalisés dans des pays qui ont connu la guerre, ces documentaires nous révèlent les conséquences dramatiques que les conflits provoquent dans les populations civiles. Certains documentaires d'Anne Poiré peuvent être vus dans les archives de France 5 ou d'Arte. Je vous conseille donc de les visionner pour avoir une idée plus complète des réalisations d'Anne Poiré. Quant à son livre « Mon pays vend des armes » dont nous avons parlé en début d'émission, on peut le trouver facilement dans les bonnes librairies. Alors, bonne lecture, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Parler d'un grand écrivain qui s'est tu. Cela fait longtemps que Milan Kundera ne répond plus aux questions des journalistes. Cela fait longtemps également que Milan Kundera refuse de livrer des pans entiers de sa vie. Et c'est pourquoi Florence Noiville, vous êtes livrée à une sorte d'enquête. Vous publiez Milan Kundera, écrire, quelle drôle d'idée aux éditions Gallimard. Kundera, pour moi, cela évoque de merveilleux souvenirs. C'est pratiquement la découverte de la littérature lorsque j'étais adolescent. Justement, je me demande, Florence Noiville, si il n'y a pas aussi une question générationnelle chez Kundera.
Oui, bien sûr, je vais vous répondre, Guillaume, mais d'abord, je voudrais réagir sur le mot d'enquête, si vous me permettez. Car en fait, ça n'est ni une enquête, ni une biographie. Et Kundera déteste les biographies, donc je me serais bien
garée. Il déteste aussi les enquêtes.
Et il déteste aussi les enquêtes, vous avez tout à fait raison. Je me serais bien gardée de suivre ce mouvement biographie. C'est plutôt un livre qui ressemble à un manteau d'Arlequin, si on peut dire. Vous savez, ces morceaux d'étoffes qui sont cousus ensemble, qui ont des couleurs différentes, des formes différentes, des textiles différents. Alors là, vous trouverez en effet quelques éléments biographiques, mais de base, ceux que tout le monde connaît, aucun scoop.
Attendez, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, justement, on va rappeler qui est Kundera.
On y reviendra, en effet. Vous trouverez aussi, et notamment pour les jeunes, beaucoup d'extraits de ses œuvres que je voulais absolument donner à entendre, mais vous trouverez aussi des photos, des dessins, des souvenirs personnels, des morceaux de carnet de voyage sur ses traces, en Bohème ou en Moravie, et c'est tout ça qui, cousu ensemble dans une sorte de patchwork que je ne saurais pas vraiment ranger dans un genre particulier, forme une espèce de grande étoffe dont on peut s'enrouler pour se réconforter et se réchauffer, parce que l'œuvre de Kundera aujourd'hui, c'est une œuvre qui réchauffe et qui aide à vivre, et c'est surtout ça que je voulais montrer.
Milan Kundera est vivant, il est en France quelque part, il est aujourd'hui malade, Florence Noiville, mais lorsque je parlais d'enquête, c'est parce que Milan Kundera, depuis longtemps, ne se prête plus au jeu des interviews, refuse de donner des éléments biographiques, et d'ailleurs vous le racontez dans Milan Kundera écrire, quelle drôle d'idée, vous racontez à quel point, y compris lorsqu'on a accès à Milan Kundera et à son épouse Vera, qui très importante à la fois dans votre livre, dans sa vie, dans son œuvre.
Merveilleuse et très importante, Vera.
Eh bien, vous rappelez à quel point ceux-ci refusent de dire le moindre élément biographique. Par exemple, la simple circonstance dans laquelle ils se sont rencontrés, cela doit demeurer secret. Pourquoi ce refus de la biographie chez Kundera ?
Mais vous savez, Kundera est un être d'une grande élégance, et parmi ses élégances ultimes, il y a celle de la discrétion. Une vertu assez peu à la mode, mais qui fait que, justement, on l'aime. Mais je reviens sur un instant sur votre idée des générations, parce qu'effectivement, c'est important. Moi, je l'ai découvert comme ça, et je me souviens très bien de ce moment d'éblouissement kundérien, lorsque, pour la première fois, je suis en classe préparatoire, j'ouvre l'art du roman, et là, alors que j'ai dû, sans doute, lire des ouvrages assez soporifiques sur la chose, tout à coup, je tombe sur des pages d'une limpidité et d'une profondeur absolument merveilleuse.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit sur le roman ?
Eh bien, parce qu'il est capable, notamment, et c'est ça à l'époque qui me frappe, de tirer des fils, pas seulement de parler de littérature, mais de tirer des fils extrêmement intelligents, extrêmement clairs entre tous les arts, la littérature, le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, on y reviendra peut-être, mais il a failli être musicien. Il est très musicien, Milan Kundera. Et ça, cette espèce de cadeau de fête de l'intelligence, j'avais envie, en effet, vous avez raison, de le transmettre à la génération d'après, celle qui a peut-être moins accès ou celle qui ne le connaît pas encore, de transmettre cet éblouissement. Et comme j'ai la chance de le connaître par ailleurs, eh bien je me suis dit que tiens, peut-être j'allais le faire de cette manière un peu différente que je vous décrivais tout à l'heure, qui est un peu une promenade dans sa vie et dans son œuvre, en mettant l'accent sur un aspect peut-être moins connu de Kundera, qui est le côté espiègle, le côté qui fait rire, d'où la couverture, on en parlera aussi sans doute, qui est un dessin de lui, et où je vois une belle métaphore du travail de l'écrivain.
Quelques mots de présentation pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Milan Kundera. Qui est-il, Florence Noiville ?
Alors, il naît en 1929 à Brno, un nom difficilement prononçable pour nous autres Français. C'est la capitale de la Moravie, donc cette région à l'est de la Bohême. Et il naît dans une famille très cultivée, où le savoir a beaucoup d'importance, et où son père est pianiste. Son père, qui s'appelle Ludwig Kundera, qui est un grand pianiste, un grand concertiste, un chambriste aussi, etc. Et qui très tôt va l'initier au secret de la musique, et dans des conditions absolument merveilleuses, puisqu'il est lui-même, ce Ludwig Kundera, l'ami proche de Janáček. Janáček, le grand compositeur tchèque, qui est l'une des grandes idoles en musique de Milan Kundera, comme Bacon peut être l'une de ses grandes idoles en peinture, par exemple. Vous voyez, on rejoint déjà le côté multidimensionnel de l'homme, l'humaniste plutôt à l'ancienne, qui s'intéresse à tout, qui est capable de parler de tout. Donc il est d'abord, comment dirais-je, il grandit dans cette atmosphère-là, et il il est presque destiné à être pianiste. Il apprend la composition avec un certain Pavel Haas, qui est aussi un grand pianiste, mais qui finira à Térésine de façon tragique. Et il compose. Ses premières œuvres de création sont des compositions, des petites pièces de musique de chambre qu'un pianiste de ma connaissance m'a jouées, qui sont assez janáčekiennes, mais qui compose à 14 ans. Donc vous imaginez le génie de cet homme qui sait tout faire et qui m'en rappelle un autre, qui est Alfred Brendel, qui lui aussi compose, joue de la musique, enfin évidemment joue et peint, c'est ça que je voulais dire, et qui lui aussi vient de Moravie, comme si cette Mitteleuropa c'était encore une pépinière pour les gens ultra doués de cette génération.
Et le destin de Kundera se confond avec cette Mitteleuropa, c'est-à-dire avec le destin tragique de cette partie de l'Europe particulièrement frappée par la guerre et par les exactions nazies, puis avec le communisme dans une forme de succession. Il y a d'ailleurs un extrait de Kundera que vous citez dans le livre du rire et de l'oubli. En 1939, l'armée allemande est entrée en Bohême et l'État des Tchèques a cessé d'exister. En 1945, l'armée russe est entrée en Bohême et le pays s'est de nouveau appelé République indépendante. Les gens étaient enthousiasmés par la Russie qui avait chassé les Allemands et comme ils voyaient dans le Parti communiste son bras fidèle, ils ont transféré sur lui leur sympathie. Il y a dans cet extrait de Kundera à la fois cette nostalgie, cet humour un peu absurde, ce destin tragique des pays de l'Est et son destin à lui se confond justement avec celui de ces républiques indépendantes, comme il dit.
Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que vraiment sa vie embrasse un siècle, hein. Embrasse un siècle d'histoire. Et quand vous parliez de république indépendante et de fragilité de ces petites civilisations de l'Europe centrale,